Merci. Alors, la salle est grande, donc c'est peut-être pas visible à l'œil nu, mais je suis vieux. Je précise, je suis vieux en année Internet. Ce que je veux dire par là, c'est que... Alors, peut-être que certaines personnes ne vont pas comprendre ce que je vais dire là, mais imaginez-vous que j'ai déjà eu une adresse CompuServe. J'ai déjà eu une adresse sur AOL.com du temps où on envoyait les disquettes d'AOL.com par la poste. J'ai géré, alors encore une fois, je vais parler chinois pour certaines personnes, j'ai déjà géré un serveur de fichiers Gopher. J'ai codé mes premières pages HTML dans un éditeur de texte en ASCII. Alors, si le mot ASCII est du chinois pour vous, vous voyez qu'on est loin là, temporellement. J'ai une bibliographie numérique sur le 18e siècle qui existe depuis bientôt 20 ans. Donc, logiquement, j'aurais dû me mettre à bloguer rapidement, puisque j'ai commencé très rapidement à faire des trucs sur Internet. Et pourtant, c'est peut-être pas visible à l'œil nu non plus, mais je suis un jeune blogueur. En fait, j'ai commencé à bloguer très précisément le 14 juin 2009. Alors, pourquoi est-ce que je n'avais pas commencé à bloguer plus tôt? Je m'étais dit que je devrais le faire, mais sans jamais trouver comment le faire. Et je dirigeais un étudiant de maîtrise qui a fait un mémoire sur les blogs, la transformation des blogs en livres, Éric Vignola. Et c'est en dirigeant ce mémoire que j'ai compris qu'il y a un certain nombre de choses qu'il faut faire quand on veut faire un blog. Une des choses, c'est d'avoir un ancrage fort, donc ne pas parler de toutes sortes de choses. On peut décider, c'est la position que j'ai prise, d'avoir un centre fort. Et il faut le faire régulièrement. Et donc, ce centre fort, d'où le titre « L'oreille tendue », c'est des questions de langue, c'est des mots, donc des choses que j'entends, que je lis, que je vois. Je ne me tiens pas uniquement à des questions de lexique, de vocabulaire, de langue, mais c'est de là d'où je pars. J'ai donc décidé de choisir ce point de vue-là plutôt qu'un autre, et j'ai décidé, à la fin de 2009, que l'écriture serait dans mon cas quotidienne, donc, sauf pour quelques semaines en été, je mets en ligne un billet tous les jours. Donc voilà pour la description de ce que c'est l'oreille tendue. Alors plus précisément pour aborder la question d'aujourd'hui, quelle place est-ce que ce blog tient par rapport à la recherche universitaire, je vais utiliser deux mots qui sont deux mots parfaitement convenus, parfaitement habituels dans ces contextes. Ce sont des lieux communs, mais les lieux communs ne sont pas des mensonges, ils révèlent une part de vérité. Le premier de ces mots, c'est « communauté ». Alors il se trouve que j'ai commencé à bloguer et que je me suis inscrit sur Twitter à peu près en même temps. Et il est évident que je suis entré là et que je continue à entrer dans des communautés qui ne sont pas mes communautés habituelles. Je suis 18e-iste de formation, donc j'ai une communauté scientifique qui est celle des spécialistes de la littérature française du 18e siècle. Évidemment, les gens qui viennent sur mon blog ou les gens qui me suivent sur Twitter ne font pas nécessairement partie de ces communautés-là. Donc, ça change, bien sûr, les gens auxquels on s'adresse. Il y a une transformation des communautés. Si j'ai l'occasion tout à l'heure, je vous donnerai une anecdote d'une communauté qui est apparue récemment sur mon blog, qui me trouble beaucoup, mais je garderai ça pour une période de questions subséquentes. Et donc, ça change la façon qu'on a de s'adresser à son public. Donc, le blog universitaire, je fais des choses qui relèvent de la recherche universitaire sur mon blog, mais je sais que ces choses seront lues par des personnes dont la recherche universitaire n'est pas le travail, n'est pas le principal centre d'intérêt. Donc, premier mot, communauté, c'est un mot galvaudé, mais c'est bien de ça dont il s'agit. Quand un universitaire se met à tweeter ou à bloguer, il change la nature des communautés auxquelles il s'adresse. Deuxième mot, qui est le mot de flux. On a tendance à penser la recherche universitaire comme un truc rectiligne. Vous faites une recherche, vous allez présenter une communication dans un colloque, vous rédigez le texte de votre communication, vous l'envoyez à une revue, éventuellement, vous reprenez ce texte-là et vous l'insérez dans un livre. Mais donc, il y a un truc comme ça, parfaitement linéaire, hein, et à la fin, vous passez à autre chose. Il est évident que le blog nous oblige à repenser complètement la circulation de ce que l'on fait. On en a vu des exemples tout à l'heure, alors quand Sophie Marcotte parlait de l'interaction entre le blog et le roman, on voit bien que les choses ne se font pas dans un sens, on a là des flux divers qui peuvent être interrompus à un certain moment, mais il est évident qu'on n'est pas dans un truc qui va dans une seule direction et qui est rectiligne. Et ça me paraît particulièrement intéressant. Je donne deux exemples de ce que ça veut dire dans le cadre de ce que je fais sur mon blog. Je ferai une communication en mars dans un colloque à Ottawa qui est née très précisément de textes que j'ai écrit sur mon blog sans savoir ce que j'en ferais. Alors, j'ai mis en ligne deux textes, qui sont des textes qui portent sur la représentation sportive du sport, parce que j'avais des choses à dire. C'est dans le prolongement d'un livre que j'ai fait sur la représentation de Maurice Richard dans la culture. Donc, il y a ce livre qui existe, il y a eu, à la suite des conférences, des collègues, des machins pareils, il y a eu donc parlons sport, des produits dérivés, qui se retrouvent sur mon blog, qui mènent à une communication. Ça mènera peut-être à un texte, peut-être pas, je n'en ai aucune idée. Et donc là, vous voyez, il y a quelque chose qui se fait dans un ordre qui n'est pas l'ordre rectiligne auquel on associe habituellement, et peut-être à tort, la recherche universitaire. L'autre exemple que je veux donner du rapport entre ce que je fais là et ce que je fais ailleurs, dans des lieux plus légitimés en recherche universitaire, c'est que je n'ai aucune hésitation, moi, à renvoyer à mon blog à partir de publications scientifiques. Je peux très bien faire un article et dire, bon, j'expose là une idée, j'ai une pensée, je voudrais dire une position sur telle question. Je l'évoque très brièvement en disant, si vous voulez savoir ce que j'en fais, ben allez voir sur le web, allez voir sur mon blog, c'est là où ça se trouve. Donc pour moi, quand je parle de flux, c'est de ça dont je parle, il n'y a pas de frontière parfaitement étanche entre ces formes d'écriture-là. Elles ne s'adressent pas aux mêmes personnes, elles ne prennent pas la même forme, c'est évident. En même temps, je ne vis pas sur deux planètes séparées quand je suis blogueur d'un côté et universitaire de l'autre. Ça fait partie pour moi de la même, du même univers, de la même sphère de communication. Donc voilà les choses que je voulais dire.
Merci. Pour le bénéfice de la salle, je signalerai que même si Benoît regardait son iPad, il était fermé. Je vais inévitablement recouper un peu des choses que Benoît vient de dire, puisqu'on a des approches qui peuvent se ressembler un petit peu. C'est aussi un canevas qui tend à se développer et à se cristalliser, je dirais, depuis quelques années. Cette idée donc du blog scientifique que j'ai appelé l'épée du soleil et que je réalise de plus en plus que je déteste l'entendre nommer, que j'aime bien le lire et j'aime bien l'idée qu'il y a derrière puisque c'est un emprunt à Italo Calvino, mais enfin, pure anecdote personnelle comme j'essaie de ne pas en mettre sur mon blog. Donc pourquoi bloguer quand on passe notre temps à écrire des communications, des articles, des ouvrages? Pourquoi bloguer quand finalement comme étudiants, chercheurs, professeurs, on a à peu près toutes les tribunes que l'on veut bien avoir. En tant que tel, pour moi, le blog répond à des besoins. D'une part, le besoin de ne pas cadrer cette écriture dont parlait Benoît à l'instant, donc de pouvoir faire court, de pouvoir faire long, de volontairement orienter un texte, de le biaiser, d'être incomplet, d'être brouillon, et de se dire que ça vaut la peine de le faire tel. Ça répond aux besoins d'une certaine zone pour exprimer, pour mettre à l'épreuve souvent des intuitions qui ne sont pas des avancées précises dans sur un point que l'on veut développer pour en arriver à avoir l'article blindé qui sera cité par tout le monde. On veut simplement mettre de l'avant certaines pistes. Certains de mes collègues, avec des yeux ébahis, me disent « Bon, pourquoi écrire sur des projets en cours qui sont à peine démarrés? Pourquoi, par ailleurs, ajouter à nos charges d'enseignement et de supervision? » Parce que c'est du temps qu'on prend et c'est aussi des idées, c'est aussi de l'énergie qu'on met à l'intérieur de ces projets-là. Pour moi, c'est une question d'engagement qui peut paraître un peu kitsch aujourd'hui, mais que je vais défendre, puisqu'en tant que, si, mettez l'étiquette que vous voulez, de scientifique, d'intellectuel, de personne liée au milieu académique, nous avons cette part d'engagement à l'égard des gens qui nous entourent, dans une logique de partage, d'abord et avant tout, qui permet de donner accès à tout ce que je peux rencontrer de travaux, d'idées, de pistes à travers mes activités de recherche ou à travers mes lectures. Faire une annotation de lecture sur un passage, un paragraphe que je trouvais intéressant, bon, que je ne mets pas sur une fiche que je vais perdre quelque part dans un classeur, mais que je me dis, bon, si elle peut m'être utile un jour parce que je vais la retrouver plus facilement que dans un classeur, et si ça peut servir à quelqu'un d'autre, pourquoi pas privilégier cette approche-là. Souvent, laisser des pistes en jachère, les offrir à un lecteur, les développer collégialement avec des gens qui vont venir lire, qui vont réagir, soit par les commentaires, mais de moins en moins, je dirais, parce que c'est moins la façon de faire aujourd'hui, mais par un article, un contre-article qui va pouvoir développer cette idée-là. Donc, je le vois comme un investissement gagnant-gagnant où je donne, je décide que je prends du temps pour donner et je m'attends qu'un jour, ça me reviendra. Bon, c'est un peu zen par rapport à la communauté, mais néanmoins, c'est ce qu'on observe. Un engagement également qui prend la forme d'une responsabilité. Pour moi, un blog ou une vitrine sur Internet, peu importe à la limite l'outil que l'on prend, offre un filtre. C'est une forme de veille. On sait très bien que l'Internet, c'est plein de toutes sortes de choses, de bonnes et de moins bonnes, évidemment, mais comme personne spécialiste d'une question ou d'un domaine, on a ce devoir d'aider les gens qui sont autour de nous à repérer les éléments intéressants. On parlait tout à l'heure avec Simon, bon, de ce territoire vierge où il y avait la question des instances de validation. Tranquillement, il y a des validations qui se mettent en place et nous sommes des instances de validation du point de vue scientifique en ce qui me concerne et où on a ce devoir de dire « voici ce qui est intéressant ». J'ai l'habitude de dire à mes étudiants dans un cours de méthodologie en début de bac, « vous savez très bien la valeur de ce que vous retrouvez dans les co-vedettes en comparaison avec une encyclopédie. Vous avez les repères, vous avez les balises par rapport à ce discours-là. Dans le monde numérique, tranquillement, on tend à établir ces balises-là, mais il faut des gens pour pouvoir les élaborer, pouvoir les nommer. Donc, pour moi, le blog est un rouage parmi d'autres, mais un rouage pour arriver à ce travail de filtre, de veille sur différentes questions, qui se mélange donc avec d'autres rouages, comme Twitter, comme des outils de veille, comme Digo, comme Delicious, comme certains vont utiliser Facebook ou Scoop.it. Donc, le blog est une forme de diffusion relativement souple pour des travaux récents, pour des idées à faire circuler, mais aussi pour cette idée qu'évoquait Benoît tout à l'heure de mise en réseau avec des collègues de circuits différents pour essayer d'éviter les silos disciplinaires qui sont trop souvent l'apanage des universités aujourd'hui, qui nous permettent d'ouvrir, de discuter avec des gens avec qui on n'aurait a priori absolument pas eu de contact, mais que des questions, bon, particulièrement des questions du numérique qui m'intéressent, vont permettre d'établir des ponts avec différents collègues. C'est donc une conviction profonde par rapport à ces engagements, par rapport à la diffusion, qui font en sorte que je me suis impliqué, entre autres, dans le projet Hypothèse, qui est une plateforme de carnet scientifique en sciences humaines et sociales qui a été développée par le CLEO, le Centre pour l'édition électronique ouverte, qui est rattaché au CNRS en France, et qui permet de créer des blogs scientifiques pour des gens qui n'ont pas accès à ces plateformes-là, qui veulent avoir un lieu qui est un peu légitimé, qui est un peu standardisé. Actuellement, il y a plus de 300 carnets qui ont été créés depuis 2-3 ans. Il y en a à peu près un qui est créé à chaque jour et une quinzaine qui sont rendus publics par mois. Ce qui vous donne une petite idée de cet intérêt qui se développe de plus en plus. Peut-être simplement pour finir, parler un peu de l'écriture sur blog. Odile en a parlé tout à l'heure d'une certaine façon, on avait échangé sur ces questions. Je ne suis pas sûr que je me mettrais dans la zone des blogs littéraires, mais néanmoins, la question de l'écriture est importante. Pour moi, l'écriture sur blog est conditionnée d'abord par le temps. Difficile de se réserver un temps d'exploration. Pour moi, le blog est une pratique éparse. Là-dessus, je serai un vieux blogueur. Ça fait 9 ans que mon blog est ouvert. J'ai été parmi les happy few qui étaient sur MovableType 2.6 et qui étaient tout contents de jouer dans le code. Plus personne ne sait c'est quoi aujourd'hui, donc à quoi ça servit. Mais pratique éparse, j'ai moins de 200 entrées sur 9 ans. Ce qui est très peu à comparer à Jean-Philippe dont on parlait tantôt. Mais bon, j'y vais. Ouais, c'est ça. J'y vais quand je peux et ça me permet donc d'avancer tranquillement. Conditionné également par l'amont et par l'aval. L'amont, mes lectures, le réseau de blogs que j'aime lire, les sites que je vais voir, les sources que je consulte. Parce que ça va quand même donner une teinte particulière à ma réflexion, inévitablement, mais aussi en aval, puisque les lecteurs sont importants, les réactions, les gens que je vais voir qui vont s'intéresser, qui vont réagir. Et c'est ce qui fait que j'ai recentré tranquillement mes intérêts du côté davantage de la culture numérique plutôt que de la littérature contemporaine, puisque mes collègues contemporanéistes n'y sont pas. Et donc, plutôt que de parler dans le vide, j'ai tranquillement déplacé, en général. J'ai eu un regard torve à côté de moi. Donc, plutôt du côté de l'édition, des rapports avec les écrivains, numériques, les bibliothèques, les questions d'archives, de l'open access, qui vont m'intéresser de plus en plus. Donc, la culture numérique, à la fois comme support, mais également comme objet. J'imagine qu'il faut que je finisse. Merci. Peut-être simplement parler... du dialogue, du blog. Pour moi, le blog ne se conçoit plus aujourd'hui en dehors de la de l'échange qu'il y a avec Twitter. Bon, vous l'avez peut-être vu tantôt, Simon en a été victime, il sera tantôt. Pour moi, évidemment, Twitter est la forme brève, donc de la réaction instantanée, du lien qu'on fait suivre, du commentaire à partir d'un mot ou même d'un clin d'œil ou d'une posture ironique, alors que le blog sera la forme longue. Je vais accumuler lentement différentes notations, des commentaires, des allusions qui vont être sur Twitter, qui vont être parfois dans ma zone de veille sur Diego. J'ai comme l'impression qu'on se fout de ma gueule. On va saluer François puisqu'il est là. Tranquillement, je vais en venir à cristalliser une réflexion, une pensée autour de certains points qui vont prendre la forme d'un texte du côté du blog. Donc, de cette façon-là, le blog est une forme stabilisée des idées impulsives qui est actuellement menacée, peut-être qu'on n'en parle pas suffisamment, mais par le déplacement de la socialité sur Internet vers Facebook, vers d'autres médiums, on s'aperçoit que toute la zone de commentaires des blogs est souvent délaissée. Et je me dis, bon, est-ce que c'est la fin du blog? Certains ont vu ce phénomène-là comme un signal de la fin des blogs. C'est plutôt l'inverse que je souhaiterais, puisque c'est une modalité éditoriale, on l'a un peu évoqué tout à l'heure, qui me paraît déterminante. On est dans une logique web, mais c'est une modalité éditoriale qui se place contre les logiques d'applications fermées. Donc, sur toutes les plateformes, de plus en plus, on voit que sur le iOS, sur Android, on a des applications qui encapsulent l'information, qui encapsulent des activités. Le blog est ouvert, on est en logique web, et il est encore plus ouvert parce qu'il est fondé sur un flux. Luc en parlait tout à l'heure, de cette idée qu'on peut récupérer le contenu d'un blog pour le lire dans une autre interface. Ça me paraît une des richesses actuellement du blog. Donc, un espace privé ouvert, qui est peu formalisé et qui est avant tout un espace de subjectivité. Peut-être qu'on ne se donne pas suffisamment dans le monde universitaire, mais qui nous permet de la gagner de cette façon-là.
Je suis la responsable en ce moment du projet OIC. Cette chose que vous voyez à l'écran et qui est en train donc de restreamer l'événement aujourd'hui. Puis vous avez bien vu que là, on ne sait plus trop où est notre dynamique. Est-ce qu'elle est ici autour de la table? Est-ce que c'est vous qui sommes là-bas ou bien c'est en train de se passer derrière nous sur Twitter? Et on voit bien qu'il y a plusieurs entrées en ce moment. Donc, l'OIC, l'Observatoire de l'imaginaire contemporain, le méga projet de Figura et du laboratoire NT2 est donc en ligne depuis plus d'un an et il est toujours, comme vous voyez dans la barre en haut, en développement. Je vais vous faire un sneak preview tout à l'heure de ce qui s'en vient, mais je vais partir de ce qu'on a fait depuis un an avec mes collègues au NT2, de l'équipe médiatique du NT2, Kim Petit et Grégory Fabre. On s'était dit que si on était pour faire un partage des connaissances et créer une communauté avec les chercheurs du Centre Figura, que oui, c'était bien beau d'aller mettre nos carnets Figura, nos cahiers Figura et avoir ces archives d'événements, hein, comme hier soir, j'étais en train d'enregistrer le lancement de Martine Delvaux, c'est pour par la suite se retrouver donc à avoir les événements littéraires qui se retrouvent dans notre communauté sur cette plateforme. Mais il y a une multitude donc de possibilités et une de ces possibilités qu'on a commencé dans le cadre du groupe de recherche de l'Observatoire de l'imaginaire contemporain l'année dernière, c'était de faire des carnets de recherche. Et comme le disait René il y a un instant, on a donc été du côté des exemples déjà existants, hypothèse.org et aussi culture visuelle. Je vais vous le montrer dans un instant, mais Culture Visuelle est un lieu de blog des autres études en sciences sociales à Paris sur la photographie, sur l'image. Et je ne me rappelle plus, c'est pour ça que je regarde mes notes. Oui, ils sont rendus à 96 blogs sur Culture Visuelle. C'est-à-dire que tout événement, que ce soit un séminaire, que ce soit donc une conférence ou bien un sujet sur lequel leurs chercheurs travaillent, ils leur permettent d'avoir ces carnets de recherche-là. Donc, on s'était basé sur ces exemples pour faire appel à notre communauté. Notre communauté, c'est donc des chercheurs universitaires affiliés à Figura, des étudiants au cycle supérieur affiliés à Figura également. Et on est parti avec l'idée, bon, avez-vous envie d'avoir un carnet de recherche? Depuis un an, nous en avons 16. Il y en a deux qui ne sont pas très actifs. Donc, mettons qu'on va dire qu'on est avec une douzaine de carnets pour l'instant. Et une des questions qui est là depuis le début, c'est quoi cet effet communautaire? Hein? Qu'est-ce qui fait qu'on va se répondre? Qu'est-ce qui fait qu'on va vouloir prendre le temps? Hein? Parce que avons-nous le temps d'aller, en plus de l'autre blog qu'on a ailleurs, de se mettre à faire un blog, un carnet de recherche qui serait plus dédié à nos préoccupations universitaires. Dans le cadre du groupe de recherche donc, de l'Observatoire de l'imaginaire contemporain, il y avait déjà une idée qui était bonne parce que, étant donné que les étudiants avaient à travailler sur des sujets différents, on leur disait, bon, ben, commence déjà à faire des entrées sur ton carnet, sur ton projet en cours, pour arriver à la journée d'études où on va donc faire une communication comme dans un colloque. La première qui a relevé le défi dans les étudiantes, c'est Joëlle Gauthier, qui a un blog qui s'appelle With Boots et qui est sur ce qu'elle appelle le cool. Alors, ce qu'elle me disait et qu'elle a mis par la suite sur le site du NT2 et également sur l'OIC, c'était... attendez, je cherche ma note. Je vais y aller comme ça parce que je vois bien que je ne le trouve pas.
Moi, le papier, c'est plus bon.
Oui, c'est ça. Donc, With Boots, référence à une obscure citation de William Burroughs, lue quelque part au hasard, un journaliste lui avait demandé ce que voulait dire cool et ce qui pouvait être considéré comme l'étant. Burroughs avait répondu Everything with boots ou Everything that wears boots, je ne me souviens plus très bien. Il avait ensuite ajouté que si vous ne saisissiez pas ce qu'il voulait dire, c'est que cool, vous ne l'étiez pas. Donc, Joëlle s'inscrit dans cette communauté hipster dont on entend parler de plus en plus, qui font des événements à Salon Double, qui font des tables rondes bientôt à Figura. Elle s'inscrit donc dans cette communauté et là, c'est son projet de recherche. Et en fait, en lui demandant de commencer son carnet, elle était partie sur l'idée que ben, pourquoi pas. Alors, je vais aller voir un instant... Lorsque l'équipe de l'OIC m'a proposé d'ouvrir un carnet, tu en fais ce que tu veux, je n'ai pas pu résister, plutôt que de constamment harceler les quelques autres étudiants que je côtoie au quotidien, mon public captif, je peux maintenant déballer mes idées devant une vaste communauté qui partage des intérêts similaires, des petites entrées sans prétention, des bribes de pensée se frottant à d'autres bribes de pensée dans d'autres carnets. Une salle de séminaire qui se prolonge sur le web et reste ouverte 24 heures sur 24. C'est tout à fait charmant et éminemment convivial. Donc, ça, c'est souvent la réaction qu'on a, c'est pourquoi pas, parce que là, je vais pouvoir mettre mes recherches et je vais attendre des réactions. Ça ne marche pas tout à fait comme ça. On ne peut pas attendre des réactions. Hein. Il y a évidemment l'effet de la discussion. Et c'est pour ça que nos outils de Web 2.0, que ce soit le Twitter ou le Facebook, où on fait le relais de cette information-là, va permettre cette situation. Mais effectivement, on se rend bien compte que quand on est, par exemple, dans une conférence de Daniel Grenier sur les hipsters à Salon Double, il y a des entrées comme ça de blogs qui ont circulé et des citations, par exemple, venant du blog de Joëlle, qui ont été citées à cette journée-là, à cette conférence-là. Donc, c'est là où, effectivement, cette communauté s'est créée et trouve sur la toile des endroits de réflexion. Alors, l'autre exemple était donc de dire qu'il y avait hypothèse et culture visuelle qui étaient là pour nous montrer que, finalement, l'utopie d'avoir 96 blogs de recherche, c'était tout à fait possible. Bon, je me suis bien rendu compte qu'en allant sur Culture Visuelle, certains de ces blogs-là sont pas du tout continue ou c'est effectivement 4-5 entrées. C'est ce qu'on est en train de vivre, nous, dans notre expérience donc de l'Observatoire de l'imaginaire contemporain. Mais j'ose espérer, étant donné que je sais que dans ma communauté de chercheurs à moi, il y en a plusieurs qui ont des blogs ailleurs, eh bien, effectivement, on va finir par retrouver des lieux de discussion. Et là où l'Observatoire est peut-être très intéressant, c'est que, étant donné que nous, nous n'avons pas juste des carnets, mais nous avons les enregistrements de, par exemple, cette journée-ci, eh bien, on travaille avec une taxonomie. Une taxonomie, c'est-à-dire ces mots-clés, ces tag cloud, c'est l'idée que les idées sont partagées et que si moi, je clique justement sur, je ne vais pas faire l'exercice là parce que je n'ai pas le temps, mais sur la littérature contemporaine américaine, je vais me retrouver dans une entrée de Joël, peut-être sur les hipsters, mais ça va aussi me ramener à des articles, des cahiers figurants. Et c'est là où je pense qu'on est en train de créer la possibilité de, en recherche, d'avoir cette communauté. Alors, je vais finir avec... Je voulais avoir le teaser, quand même. On travaille fort, quand même, à l'OIC. Alors, voilà de quoi la nouvelle plateforme aura l'air, notre nouveau logo, dévoilement, un petit peu. J'ai les entrées de Bertrand Gervais, ici. Ah, c'est ça. Et donc, Bertrand a commencé son carnet dans l'OIC avec bon, le blog littéraire Nouvel Atelier de l'écrivain. Et j'aimais beaucoup cette...
Pas de point d'interrogation.
Non. Le blog littéraire, Baudelaire aurait eu le sien et Nabokov aussi. Et je vais te citer et tu pourras continuer par la suite. J'aimerais revenir un bref instant sur le statut de blog et surtout sur sa place dans la pratique littéraire contemporaine. Je restreins mon propos à la dimension littéraire de la chose, non pas pour l'exclure ou spécialiser la pratique du blog, mais pour réduire la portée de mes propos et surtout viser la communauté littéraire. Et je pense que ce sur quoi nous, on veut travailler le plus depuis qu'on a commencé l'OIC, c'est cette communauté littéraire. Pour nous, c'est très important que finalement, la fonction du blog de recherche, hein, on s'entend, soit là pour s'inscrire dans une communauté de chercheurs en littérature. Et je te lance la balle.
Merci.
Je voulais peut-être parler après Benoît, René et Alice, entre autres parce qu'ils sont plus actifs que moi en tant que blogueur. Si j'ai un regret ces derniers temps, c'est de ne pas avoir le temps d'écrire et pas avoir le temps d'être actif sur la toile. Mais je me rends compte en même temps qu'en tant que responsable en tant que directeur de Figura et directeur du NT2, qu'une partie de ma tâche, c'est que je n'ai pas le temps de travailler activement à écrire et à nourrir mes propres carnets. Que ce soit celui de « Ce n'est écrit nulle part » ou encore mon carnet « Réflexion sur le contemporain » sur l'OIC, au moins je me dis que je suis en train d'aider les autres à le faire. Et que donc, comme le décrit Alice, on est en train de mettre sur pied ce que moi j'appelle un environnement de recherche et de connaissance, c'est-à-dire la forme à l'écran du livre. Donc, c'est un dispositif de transmission et de conservation de l'énergie. Là, c'est Hydro-Québec qui vient qui vient hanter mon discours, mais de transmission et de conservation de l'information. Et qui, je crois que depuis qu'on a commencé, depuis 1994, au moment où Internet est devenu, s'est commercialisé, on voit très bien comment nous passons de plus en plus d'une culture du livre à une culture de l'écran. Et je crois qu'il est important de négocier soi-même ces nouveaux espaces de diffusion de la recherche ou de diffusion de l'écrit. Et au lieu de se faire imposer des modèles de l'extérieur, moi, j'ai commencé à trouver important qu'on se dote nous-mêmes de modèles, évidemment, qui sont hybrides, qui sont empruntés des autres. Je pense que parler de culture visuelle ou encore d'hypothèse, c'est une bonne idée parce qu'en effet, on a vu ce qu'ils avaient été capables de faire. On s'est dit qu'on devait, qu'on devait faire la même chose. Mais avant de se faire imposer des modèles donc de diffusion sur le web, d'y aller soi-même avec nos propres souhaits, nos propres projets. Un projet comme l'Observatoire d'imaginaire contemporain ou encore un projet comme le répertoire du NT2 était bel et bien une façon de mettre en ligne des données qui n'existaient pas auparavant, donc d'arriver avec une base de données nouvelle, et surtout de doter cette base de données de strates d'analyse et de strates de discours qui viendraient compléter ces données fondamentales que nous avions répertoriées. Et à partir du moment où on a commencé à travailler sur ces choses-là, moi, je me suis rendu compte qu'il y avait là, en fait, un modèle de recherche qui pouvait se développer, qui pouvait s'institutionnaliser, non pas en fonction des stratégies traditionnelles d'institutionnalisation, mais presque des stratégies d'auto-institutionnalisation, c'est-à-dire que c'est un centre de recherche, nous sommes accrédités, et pourquoi ne pas profiter de cette accréditation-là pour se dire, voici, eh bien, allons-y de l'avant nous-mêmes avec notre propre modèle de diffusion de l'information. Et très clairement, l'idée de réfléchir sur les blogs et les carnets va dans le sens de cette entreprise de renouveler les modalités, les stratégies de recherche actuellement, en fonction, bien sûr, d'Internet et du numérique et des possibilités que le numérique permet. Ce qui est important, mais je pense que Benoît, ben, en fait, vous trois, vous l'avez aussi mentionné, mais c'est clair pour tout le monde. Ce qui est intéressant de la logique des carnets, de la logique des blogs, c'est le fait qu'en fait, l'attention est mise sur les processus plutôt que sur les résultats. Quand j'ai commencé ma carrière comme prof, moi j'étais de la même génération que toi, donc j'ai commencé à faire mes courriels sur MIME en texte simple et essayer de programmer des trucs avec des copains, et ça marchait une fois sur deux, et puis après ça prenait tellement de temps qu'on arrêtait, puis il y avait une nouvelle génération de langage qui apparaissait de toute façon, qui venait tout invalider. Mais quand j'ai commencé ma carrière comme prof, comme je travaillais surtout sur des théories de la lecture, très clairement, ce qui m'intéressait dans le cadre d'une sémiotique de la lecture, c'était non pas d'arriver à comprendre comment institutionnaliser des résultats, mais au contraire, comment penser la lecture comme un processus. Et longtemps, j'ai mis énormément d'importance à essayer de développer cette logique des processus, sachant que la meilleure façon de comprendre et pour moi et pour mes étudiants, comprendre qu'est-ce que c'est que de lire, c'était de voir de quelle façon que ce processus-là va se déployer, ça va se complexifier en se déployant, et que toute l'attention, je l'ai mise sur ce rapport entre la théorie et la pratique d'une part, et d'autre part sur le déploiement de processus. Et très clairement, à partir du moment où Internet s'est développé et que le Web 2.0 s'est développé, donc la possibilité qu'il y ait des carnets et qu'on puisse bel et bien mettre une recherche, des états préliminaires de recherche en ligne, évidemment, là, pour moi, c'était une logique parfaite de dire, bien, poussons justement le développement des carnets parce que c'est bel et bien dans une logique des processus que ça va se faire. Et pour moi, donc, d'être en train de dire, bien, c'est pas nécessairement une recherche terminée qu'on met en ligne, qu'on publie comme on le fait avec nos monographies ou encore avec les articles et les chapitres de livres que nous faisons, mais allons-y d'une logique du processus parce que c'est par cette logique-là que nous parviendrons, en fait, au moins à dynamiser la recherche, et non simplement axer toute notre attention sur une logique des résultats. Et très clairement, vient avec cette logique des processus aussi un rapport entre la communauté et l'institution. Privilégiant les effets de communauté liés à cette diffusion constante des résultats, et dans ce sens-là, je pense que la communauté s'oppose à une logique de l'institution qui nous dit « voici ce qui est reconnu, voici les résultats auxquels nous nous attendons, voici de quelle façon ces résultats-là doivent être produits, et ainsi de suite. » Et donc, l'institution vient avec sa logique du monument, et la communauté, en fait, elle, bien, peut se déployer d'une façon tout à fait organique et de façon parcellaire, si on veut. Alors, processus, communauté versus logique des résultats et institution, pour moi, c'est bel et bien un des tournants qu'on peut prendre par le biais d'Internet, par le biais donc de cette diffusion via blog et carnet. Et il est clair aussi que derrière cela, ce qui se profile pour moi, c'est bel et bien aussi une logique de l'écriture. Plutôt que du texte et du livre, plutôt que de ce qui apparaît comme étant cette chose terminée, donnée à lire, c'est une écriture qui est en mouvement, c'est une écriture en fait qui essaie de s'actualiser au moment même, en fait, où elle est diffusée. Et pour moi, tous ces éléments-là font en sorte que des fois, je regrette de ne pas avoir autant de temps pour en faire, mais en même temps, je me dis, ce qui est important, c'est de m'inscrire dans cette communauté qui, elle, privilégie justement les effets de communauté liés à la diffusion en ligne, ces effets aussi de processus et de travail en cours qui, bien sûr, favorisent l'écriture. Et quand on favorise l'écriture, par la force des choses, on favorise la lecture et on favorise le partage. Donc, tout ça nous mène, en fait, dans une logique de partage. C'est à peu près ce que j'avais à dire.
Merci, Bertrand. Est-ce qu'il y a des réactions à chaud sur tout ce qui vient de se dire? Moi, ce qui me frappe déjà, c'est toute la question qu'on voyait apparaître de la frontière, des flux d'une certaine façon. Et là, on arrive avec toi qui est dans le processus versus le résultat. Puis je me demandais, d'une certaine façon, où on peut situer le blog entre finalité et processus dans une série, éléments d'une série, d'une certaine façon. Puis moi, je sentais comme deux mouvements, un qui décloisonnait d'une certaine façon, qui donnait au blog un certain statut, et l'autre, ou l'ancienne conception, ou la conception préjudiciable, si on veut, qui est de voir le blog comme une gestion de graphomanie ou un endroit où déverser un trop-plein. Donc, moi, je me demande dans quel élément ou dans quelle position entre épaules vous voyez ça.
Ben, peut-être que moi, je peux réagir par rapport à ce que j'ai vu dans les carnets de Louis C1. Je ne vais pas parler de la blogosphère au complet, là, mais en recherche, c'est qu'un trop-plein, peut-être pas tout à fait, parce qu'on voit bien que même si ce sont des recherches en cours, je vais donner un autre exemple, le carnet de Marie Parent qui travaille sur l'imaginaire de la banlieue. C'est pas un travail où elle nous fait des pauses toutes les trois semaines. Là, c'est vraiment un travail de recherche où, finalement, c'est des réflexions en cours et dans un résultat intermédiaire. Donc, elle fait une première présentation lors d'un colloque de Louis C. Ensuite, elle le fait à un autre colloque. Puis, elle met ses résultats. Donc, je pense pas que c'est tant du flux que ça. C'est vraiment dans le processus de la recherche, mais elle est prête à le partager. C'est là un petit peu où la communauté vient, mais pas n'importe quoi ou n'importe où.
De toute façon, si on parle de flux, si on parle de processus, on est exactement... C'est d'autres métaphores, mais ça rend compte de la même chose, à savoir qu'il y a bel et bien transmission d'informations, alors que cette information-là, elle vient évidemment, elle se construit au fur et à mesure qu'elle est diffusée, d'où l'idée du processus, mais en même temps, ce que ça crée, évidemment, c'est un flux d'informations. Pour moi, il n'y a pas d'opposition. Au contraire, ce sont des termes qui décrivent à peu près la même réalité, mais en fonction de métaphores différentes. Je ne sais pas si Benoît...
En fait, moi, je pense que la logique même du blog, sauf cas extrême, c'est celle de la circulation, c'est celle de la communauté, donc au départ. Donc le problème, il n'est pas là, c'est dans la nature même de la bête que de faire qu'on partage avec des vitesses variables et dans des situations différentes, mais on partage. Par ailleurs, ce qui complique les choses, c'est la reconnaissance institutionnelle, vous en avez parlé à la fois René et Bertrand, qu'on va donner à ce genre de travail-là. Parce qu'effectivement, on sait comment gérer des résultats de recherche. L'université a été bâtie là-dessus, donc on sait comment évaluer des articles, savoir où ça a paru, si c'est des bonnes revues, si ça a été évalué par les pairs ou pas. Donc il y a toutes sortes de considérations avec lesquelles on est familier. On est beaucoup moins familier avec ce que le blog doit représenter. Et d'une certaine façon, alors, à l'exception notable d'Alice, nous sommes vieux, nous. On peut se permettre de faire ça. C'est aussi bête que ça. Hein? On peut avoir le droit de dire, bon, je vais continuer à faire, pour une partie de mon activité, des choses qui relèvent d'une logique des résultats, mais il y aura aussi une bonne partie de mon travail qui relèvera d'une logique de processus. Je suis moins sûr que pour quelqu'un qui entre à l'université aujourd'hui, ce soit facile à faire.
En fait, parmi les notes que j'avais prises, que je n'ai pas données, il y avait l'équivalent d'une courbe de Bell inversée, au lieu donc d'avoir une courbe qui monte, plutôt une courbe qui descend, c'est-à-dire que sont très présents sur la toile ceux ou bien qui n'ont rien à perdre ou encore qui ont tout à gagner. Et ceux dans le milieu, ils ne sont pas tout à fait dans la même situation, c'est-à-dire que moi, en tant que prof titulaire, je n'ai plus rien à perdre. En tant qu'auteur avec X essais de publier, je n'ai plus rien à perdre. Donc, je peux bien décider, puisque essentiellement, mon job est assuré, ben, je peux bien faire ce que je veux. Et si je veux publier des états transitoires de ma recherche en ligne, je peux bien le faire. Je n'ai pas de reconnaissance à attendre, je n'ai pas de problème. Donc, je n'ai rien à perdre. Ceux qui ont tout à gagner, la jeune génération, pour qui ils ne sont pas encore institutionnalisés, donc ils peuvent bien tracer ou chercher à tracer leur propre voie et montrer comment les outils contemporains permettent de faire une recherche qui est tout à fait, donc de servir des outils actuels et donc se dire, de toute façon, moi j'ai tout à gagner à le faire tout en faisant le restant de ce qui m'est demandé par l'institution, à savoir avoir des livres et ainsi de suite. Et eux sont aussi très présents.
Et dans le milieu, c'est clair, ben, c'est le prof adjoint, c'est le prof agrégé qui lui a... qui lui est dans le publish or perish.
Mais là, t'as juste le droit de zigonner sur Facebook dans ce temps-là. Tu peux pas avoir ton blog.
Ben, j'aimerais ça rebondir sur ce que Bertrand dit, parce que c'est vrai que ce type de publication-là sur le web permet de révéler une chose, c'est qu'il y a deux façons d'appréhender les textes académiques d'un point de vue... valeur institutionnelle, puis valeur en tant que connaissance. On a déjà vu des chercheurs refuser de publier sur le web parce que ça n'a pas la même valeur, je ne sais pas, au niveau des bourses que vous pouvez avoir hein, au CRSH ou FQRSC, qu'une publication sur un blog. Et de la même façon, moi, je m'occupe de Salon Double, on a entendu dire des trucs genre « Oui, mais pourquoi je publierais ma réflexion sur Salon Double si je peux le faire, je ne sais pas, dans Contre-jour, Voix et Images, Proté, etc., etc. » Alors que, tu sais, on peut se poser la question, le texte, si c'est le même texte, là, au point de vue de la connaissance, il y a exactement la même valeur. Sauf qu'encore aujourd'hui, on est là comme « Oh, non, c'est deux choses différentes. »
Ah oui, mais tu sais, la bebelle qui est au 5-10-15, au Dollarama, puis la même bebelle qui se retrouve chez Burks.
Ben là, ça arrive pas.
Je suis pas sûr de ça, moi.
OK, oui. Je vais exagérer, là.
Peut-être juste pendant que Simon transmet le micro à Joanne, ce que tu décris, Bertrand, est tout à fait le syndrome qu'on voit pour les publications en open access, de façon plus large, donc qui dépasse le cadre du blog, où on s'aperçoit finalement que certaines disciplines ont le loisir de dire, ou certaines personnes vont dire dans certaines disciplines, « Je ne publie que dans des revues open access ». Et là, on se dit, bon, ben, dans nos domaines, est-ce qu'on aurait ce loisir-là, de un, et de deux, institutionnellement, est-ce qu'on peut se permettre? Si on est historien d'histoire américaine et qu'on est aux États-Unis, on peut se permettre de choisir. Tandis que quelqu'un qui travaillerait sur la littérature québécoise qui dirait « Voix et images ne laisse pas un paywall pour les deux premières années, donc je refuse », il y a des choix à faire. Sur la question du flux, peut-être, juste pour laisser la parole à Joanne après, qui m'étonne toujours du blog, peut-être davantage du côté scientifique que du côté littéraire, mais c'est peut-être... une distorsion de ma part, j'ai aucune idée de ce que j'ai écrit il y a quelques années. Je ne vais pas relire et cette dimension du flux, elle est sensible de cette façon-là. Les choses avancent, il y a des choses qui m'intéressent, je continue. Parfois, je me souviens de quelque chose, je vais faire un lien. Et bon, François Bon, qui rebondira sûrement sur Twitter en arrière de moi, dira « bon, c'est le principe de la fausse habitude des blogs actuellement où on oublie tout l'antécédent qu'il y a derrière le blog ». Mais par ailleurs, je ne peux pas m'empêcher de me rappeler d'une réflexion de Carl Dubost qui dit qu'il voudrait bien voir ses anciennes entrées de blog perdre des lettres ou s'effriter comme des textes anciens ont tendance à s'effriter pour marquer ce temps qui a passé. Et là, oui, l'effet du flux peut se faire sentir.
Mais je ne voulais pas couper votre conversation. Vous avez l'air très copain. Donc, si je peux dire quelque chose de la salle... tout d'abord, peut-être pour dédramatiser la valeur de la publication électronique, il faut quand même se rappeler que Lev Manovitch, il y a plus que 10 ans, a quand même fait un statement pour reconnaître la valeur de la publication numérique et de remettre en question les critères dans les universités américaines en fonction des publications. Là, je pense qu'on a bien intégré sa leçon. Alors, je suis comme Silvano, on est de deux côtés, on se parle entre nous. J'aime ça de trouver les formes archéologiques finalement des stratégies de représentation dites nouvelles. Puis il n'y a pas dans le mode, dans l'héritage de la correspondance, alors je suis M. Melançon, je ne vais pas vous faire la leçon là-dessus, la correspondance numérique, un peu donc cette idée du carnet de recherche, c'est un peu le relais actuel de toutes ces formes de théories qui se sont écrites de façon plus détendue, sous forme de lettres, en histoire d'art, je pense en Daniel Arras, dans un style plus d'oralité. Bien sûr, les étudiants en sémiologie connaissent les lettres à Lady Wilby, donc une espèce de transmission un peu plus direct, un peu plus détendu de l'épistolaire qui se trouve finalement dans le carnet de recherche académique numérique, comme s'il était comme réactualisé.
Bon, l'épistolaire, c'est mieux à faire, donc je vais répondre. Deux, trois remarques. Bon, la première, évidemment, c'est que dans ces formes dont vous parlez, qui sont des formes très anciennes, hein, c'est la République des lettres. Donc, il y a effectivement là l'utilisation de la lettre comme moment d'une réflexion. Mais évidemment, une première différence avec la ce qui se passe dans les blogs, c'est que c'est une correspondance envers un destinataire. Vous échangez sur l'histoire de l'astronomie avec Voltaire parce que vous pensez qu'il a des choses à dire, parce qu'il a traduit les éléments de physique de Newton. Et donc là, vous êtes dans un rapport d'interlocution, vous savez à qui vous parlez. Et la personne qui vous répond va vous parler, évidemment, parce qu'elle sait elle-même à qui elle parle. Donc là, évidemment, avec le blog, on est dans une autre logique, parce que notre public, nos lecteurs, on ne sait pas qui c'est, hein, ça peut être effectivement Voltaire, imaginons, pour en faisant un petit anachronisme, mais ça peut être n'importe qui aussi. Cela dit, j'aime bien que vous preniez l'exemple de la lettre, parce que pour moi, ça nous ramène exactement à la question du flux, de la circulation. Alors, on a beaucoup dit de l'épistolaire, et ça c'est une chose qui m'a m'horripile, que la lettre, c'est le laboratoire de l'œuvre. Donc, la lettre vient avant l'œuvre. Hein? Vous faites des lettres et vous allez finir par faire quelque chose de bon. Hein? C'est ce que Simon disait tout à l'heure, vous allez en faire un livre. C'est de la littérature, c'est donc légitime. Or, j'ai essayé déjà de montrer, en travaillant sur des corpus épistolaires anciens, qu'en fait, la lettre, c'est un moment d'une réflexion. C'est un moment qui est déterminé par le moment précis auquel vous écrivez, par la personne à laquelle vous écrivez, par la réponse que vous espérez obtenir. Et donc là, vous voyez, on est dans un moment d'une réflexion. Le blog, c'est ça aussi, avec bien sûr une dimension personnalisée beaucoup moins forte. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de même nature, on est dans une interlocution qui est beaucoup plus forte que dans un texte scientifique. Dans un texte scientifique, vous vous adressez à personne, vous espérez avoir des lecteurs et encore, c'est pas sûr. Dans un blog, au contraire, vous êtes dans une interlocution, même si c'est avec quelqu'un dont vous ne connaissez pas la nature, qui est plus directe.
J'ai le goût d'organiser un literary death match entre René et Bertrand. Et des gens qui sont dans la salle, parce qu'il y a une chose qui m'a frappé, c'est que tu as glissé un petit peu en sourdine le commentaire. Moi, quelque chose que je ne fais pas, c'est l'anecdote personnelle ou bon, la mise en scène de soi d'une certaine façon. Donc, il y a une frontière, dans ces mouvements de flux-là, il y a une frontière qui semble rester ou du moins pouvoir être défendue. C'est celle qui séparait le récit ou la fiction de son commentaire d'une certaine façon. Ou d'une certaine façon, toi, tu dis, je consacre ça à des notes de recherche, des notes de lecture, et j'irai pas me mettre en récit d'une certaine façon, alors que ce n'est écrit nulle part. Parle de ce que tu fais comme chercheur, mais de ce que tu fais comme écrivain aussi. Et je pense que dans la nature du blog, si on peut dire, il y a quand même cette idée-là, dans les blogs littéraires que je fréquente, en tout cas, des fois, comme on est dans le journal, malgré tout, il va avoir souvent fléchissement ou fluctuation de cette frontière-là, entre ce qui serait de l'ordre de mon commentaire de critique confirmée ou en devenir, et la mise en fiction, la mise en récit de moi-même, de ce qui m'arrive, de ce que je pense, etc. Donc, quel est l'usage de cette frontière et pourquoi la garder et pourquoi la scraper? Bertrand, René et tous ceux que ça interpelle ici.
Pourquoi René commence pas?
Ben en fait, je peux toujours commencer sur la question de la frontière. En fait, dans un premier temps, quand j'ai commencé à explorer avec la forme blog, c'était d'abord et avant tout comme contrepoint à des projets de fiction. Je pense que ma recherche, je la faisais dans le cadre normatif de l'article, du livre et ainsi de suite. Et mes premiers projets web étaient des projets de fiction. Donc, c'était en fait la chaire de recherche sur la littérature transgénique de ce cher Éric Lin, le titulaire de la dite chaire. Et à partir de ce moment-là, en fait, quand le projet s'est terminé, il n'est pas encore tout à fait terminé, mais donc là, au moins, les entrées de blog sont terminées, là, j'ai senti le besoin d'avoir un espace à la fois de réflexion et de création qui soit, où là, il n'y a pas de frontières, qu'il n'y a pas de projet fixe non plus. C'est-à-dire que j'ai un certain nombre de sous-catégories, que ça va de archives à ateliers, à réflexion sur le contemporain, et je mets là, en fait, l'ensemble des informations qui sont disponibles sur le web, de même qu'un certain nombre d'entrées. Et sur « Ce n'est écrit nulle part », il y a vraiment la volonté de ne pas avoir de frontières, tout simplement, non pas de déverser le trop-plein dans le projet, mais simplement de me servir de cet espace-là comme d'un lieu et de réflexion, d'écriture, mais aussi d'archives et ainsi de suite, donc un lieu polymorphe. À côté, il y a d'autres projets, donc que ce soit le carnet sur l'OIC, Salon Double auquel je participe aussi, un certain nombre d'autres projets auxquels je participe, où là, en fait, les écritures sont beaucoup plus… là, les limites sont très clairement établies. Sur l'OIC, c'est mon carnet de recherche. Et donc là, je n'ai pas cherché à… donc, la question des frontières devient en effet assez intéressante, mais pour l'un, j'ai choisi de ne pas avoir de frontières. Donc, ça donne un projet qui est un peu plus ouvert, qui n'est pas un projet en tant que tel, mais dans le cadre duquel je peux répertorier certains de mes autres projets, qui, eux, apparaissent comme étant des projets. Donc,
puisqu'on m'interpelle. Je pense que Bertrand résume bien. C'est une question de mandat aussi qu'on se donne et d'une forme de responsabilité à l'égard de nos lecteurs. Bon, je ne dis pas que j'ai 50 millions de lecteurs et que je dois les respecter et que je ne peux pas me permettre de divaguer un jour ou l'autre. Mais néanmoins, cette zone, pour des questions peut-être aussi d'autorité, là, on est dans des positions d'autorité, puis moi, je le gère d'une façon qui est liée à ma propre pudeur et à ma façon de l'afficher. J'ai une vie ennuyante et je la garde pour moi. Mais par ailleurs, je prétends peut-être que certaines idées qui méritent d'être discutées, qui méritent d'être mises en scène. Parce que jusqu'à un certain point, il y a peut-être cette idée que la pensée elle-même, ou dans une forme plus essayistique, peut laisser une place à une forme de créativité. Je ne suis pas particulièrement... du côté de la fiction ou de l'écriture de fabulation, mais néanmoins, la façon de construire certaines réflexions, d'y amener certains personnages qui auraient contribué, mais qui ne sont pas mon propre avatar, vont peut-être faire en sorte que, de temps à autre, je vais me permettre de jouer de ce côté-là, mais bon... certaines personnes ne feraient pas de l'autofiction et d'autres ne feraient pas de la fiction pure. Je pense que là, c'est une question de décision personnelle, bêtement et simplement, même si ça ne fait pas un très bon spectacle.
Cette question-là, par contre, reste un des flottements fondamentaux là, dans l'approche qu'on a des blogs en général, dans la mesure où quelqu'un comme moi, par exemple, qui va être approché par l'OIC pour faire des entrées de carnet, je vais me sentir jusqu'à un certain point un peu castré par la forme un peu floue que le carnet universitaire doit prendre, etc. Donc, je sais que Joël réussit à naviguer à travers tout ça de façon assez éloquente, c'est-à-dire qu'elle se permet de se mettre en scène elle-même dans un carnet qui est là, qui est, en théorie, son espace universitaire de travail. Donc, c'est peut-être pour ça, à la limite, qu'à l'OIC, il y a une difficulté de démarrage aussi parce que c'est pas tout à fait clair, en fait, le mandat d'un carnet. On a l'impression qu'on doit non pas faire un billet de blog, comme on l'entend en général, mais mettre sur la page web une réflexion qui est quand même assez travaillée, là, tu sais, avec références, sources, etc. Un travail qui est complètement différent de ce qu'on entend en général là, sur, la majorité des blogs qui circulent en ce moment, là, qui ne sont pas du tout reliés à l'université. En fait.
Finalement, c'est une question d'usage, une question de lectorat visé, tout simplement, comme pour n'importe quelle pratique d'écriture. De la même façon qu'on ne s'attend pas à ce que des essais de littérature soient rigolos et mettent en scène la personne, pourtant Gérard Genette le fait. Et c'est probablement un des théoriciens les plus drôles quand on se met à le lire de cette façon-là. Mais il s'est donné cette liberté dans une zone qui, elle, est relativement balisée d'une certaine façon. Et bon, c'est à nous, collectivement, de décider de ce qu'on fait de cette forme-là, puisque personne ne l'a imposé. C'est simplement qu'on se dit quel est le mandat d'un carnet. Est-ce que je veux rejoindre le grand public? Je veux rejoindre étudiants, chercheurs, collègues? Et de quelle façon je veux les rejoindre? Avec un contenu, des simili-articles, finalement, qu'on aurait publié ailleurs, mais qu'on décide de publier là, ou par une prose différente, plus libre, plus essayistique, plus jovialiste, plus auto-fictive, selon les tonalités des personnes, ben, la liberté, elle est là. Personne qui oblige à quoi que ce soit.
Mais là, la différence, c'est qu'avec vous ici, on est sous l'égide de quelque chose, donc nécessairement, on a l'impression d'admettre qu'on pourrait se faire virer, tu sais, tu vois.
Je veux réagir par rapport à ce que tu dis, parce qu'effectivement, on le sent, cette contrainte-là, parce que en fin de compte, c'est, on vous offre, vous faites partie d'une communauté, mais en même temps, c'est comme si on vous obligeait à faire partie de cette communauté-là, même si, on, tu sais, par alliance, on l'est. Mais moi, ce que j'ai trouvé un des projets qui a démarré l'année dernière et dont tu as fait partie, qui était intéressant, c'était que Jean-François Chassé avait donc ce projet sur le post-humain. Vous aviez votre groupe de recherche sur lequel vous avez travaillé. Il y a eu une journée d'études, colloques autour du post-humain. Il y a eu plusieurs conférences. Et là, dans le carnet de recherche du chantier post-humain, vous avez commencé à vous répondre, à vous poser des questions. Ceci dit, étant donné que Jean-François est en sabbatique cette année, ça fait que ça aide pas parce que ton leader n'est pas là, donc il y a quelque chose qui tombe à plat. Mais là, il y avait quand même un début, si on peut dire, de quelque chose d'extrêmement intéressant parce que là, vous êtes les assistants de recherche d'un groupe en question, puis là, vous commencez à discuter finalement sur cette plateforme-là. Et moi, j'avais trouvé ça extrêmement intéressant parce qu'on avait décidé ensemble des mots-clés, on en avait rajouté et on avait aussi eu des séminaires, dans le fond, pour en discuter. Donc, et ça, c'est une autre façon, c'est de dire, ben là, est-ce que ces séminaires-là, tu pourrais te mettre à les enregistrer pour aller encore plus loin dans cette pratique de la recherche en cours, hein? Oublions jamais le « en cours » qui permet de travailler. Puis j'ai une question à te poser face à ce que tu dis, c'est au sujet du COLA. La COLA. Là, donc, votre observatoire sur la littérature américaine. Et quand vous l'avez commencé, je me suis dit, ah, c'est super le fun, mais pourquoi ils ne l'ont pas fait dans l'OIC? Et donc, en même temps, moi, je renvoie tout le temps à l'OIC et j'ai tout de suite fait une référence à ce que vous faites dans la COLA. Mais je me suis posé la question. Puis là, est-ce que tu as déjà un peu répondu, tu sais, cette contrainte qui fait que, ben, finalement, vous êtes une couple d'étudiants, puis vous vous mettez de côté, puis vous travaillez sur une autre plateforme?
Mais c'est-à-dire que nous, on n'a jamais... En fait, au départ, c'était évidemment pas tout à fait clair ce qu'on voulait faire avec ça, mais bon, il reste que là... Le blog est arrivé un peu par, pas par dépit, mais disons, c'est-à-dire qu'il se passait rien, on n'avait rien commencé et tout, on était tous occupés chacun de notre côté, et on a finalement décidé d'ouvrir un blog sur WordPress comme ça, en n'ayant aucune prétention, en fait.
Prétention, c'est ça. Hein? Aucune prétention, donc est-ce que c'est là où, si on rentre sur une plateforme universitaire, groupe de recherche, tout ça, est-ce qu'il y a plus prétention?
C'est une très bonne question. Je sais que quand on a commencé à discuter, William, Moana, Rosemary et moi, de partir la COLA, la cellule d'observation sur la littérature américaine, on a rencontré des gens du Salon Double, entre autres, des gens du NT2, pour savoir s'il y avait une possibilité d'affiliation, mais évidemment, on n'a pas trouvé de terrain d'entente. Donc, à ce moment-là, il n'y avait pas possibilité de faire une affiliation directe. Il fallait partir de notre côté. Parce que, de toute façon, nous, on n'étudie pas... Notre objet d'étude n'est pas contemporain en tant que tel, tu comprends? Il est comme national, donc ça... Ouais. Écoute, c'est .wordpress.com, je crois.
Tu l'as poussé? Ah, ben, donc, tu vois, je ne sais même plus lire des notes. Hein.
Mais ceci dit, on est très ouvert à la participation de tout le monde. Et, pour l'instant, on a seulement une dizaine de billets de publiés, là, en fait. On essaie justement d'éviter l'aspect très formel des textes en ayant, surtout, on fonctionne par flash plus que par réflexion précise. Donc, pour l'instant, en créant des catégories, mais dans l'espoir, évidemment, de créer des onglets et des sections précises. Voilà. Donc, tu vois, ce billet-là, c'est le dernier que William a publié, puis ça fonctionne en dialogue, qui sont un dialogue très oralisant que Simon aimerait bien. Donc, c'est pas très universitaire, disons, comme approche.
Mais ce que je vois, c'est qu'on se confronte à cette... C'est quoi quand est-ce que c'est universitaire, dans le fond?
Oui, voilà. Je vous remercie tous les quatre de cette belle discussion qui en a amené d'autres. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On lunch ici. Donc, apparaîtront des lunchs et nous allons reprendre, c'est quoi, à 2 heures ou à...
Qu'est-ce que vous voulez faire? À 2h, donc à 14h, on reprend avec les présentations de l'après-midi. Donc, merci à tous d'avoir été là ce matin. Et merci à vous quatre encore une fois.